La ville d'Embrun et le parc national des Écrins ont organisé conjointement une manifestation tout public intitulée « Biodiversité à tous les étages ». C'était dans le cadre de la fête de la nature le 22 mai dernier et un grand nombre de naturalistes sont associés à cette rencontre. Sur 4 sites proposés de différentes altitudes, les curieux de nature ont pu observer et s'instruire des spécificités locales telles que les oiseaux, les plantes sauvages, les grappots sonneurs, les escargots, les abeilles sauvages, les punaises ou encore les champignons, les vers de terre, les papillons et autres insectes. Pour ma part, j'ai sorti mon micro dans le Mélésin du Mont-Guillaume. On y a parlé notamment de champignons, d'insectes et d'escargots. Écoutons tout d'abord Jacques Guimberto. Il est ingénieur à l'INRA en retraite, spécialiste des champignons.
Donc ici, nous sommes au sein d'une belle forêt à base, à dominance de mélèze. Hein, donc ce qu'on appelle le Mélésin, hein, qui est l'espèce phare du Briançonnais et de l'Embrunais, hein, donc des Hautes-Alpes. Hein, donc on a un peuplement ici quasi monospécifique, hein, uniquement à base de mélèze. Et donc je vous ai préparé, que vous verrez après à tête reposée, un poster, hein, que j'ai préparé ces jours-ci avec l'aide du parc, concernant la composition, et un poster vous présentant un petit peu le cortège mycologique très spécifique du mélèze. Le mélèze est une essence particulière, à l'opposé du chêne, des certains feuillus, qui hébergent tout un tas d'espèces de champignons, des centaines, voire des milliers d'espèces, comme le chêne vert, par exemple, alors que le mélèze comporte peu d'espèces, hein, qui vivent en symbiose, peu d'espèces de champignons qui vivent en symbiose avec le mélèze, mais ces espèces sont très spécifiques du mélèze. On va ne les trouver que sur mélèze. Donc, en particulier, vous verrez un certain nombre de bolets qu'on appelle les suilus, hein, les bolets des pins au sens large, hein, qui poussent sous mélèze, hein, en relation symbiotique avec l'arbre. Vous savez que les forêts ne peuvent exister que grâce au monde fongique, grâce au fonctionnement des champignons, hein, qui sont liés au niveau des systèmes racinaires pour former ce qu'on appelle, hein, des mycorhizes. Les mycorhizes, c'est un organe mixte qui est composé moitié de mycélium du champignon, la partie végétative du champignon sous forme de filaments mycéliens dans le sol, qu'on ne voit pas bien sûr à l'œil nu, sauf avec une bonne loupe. Et ces filaments mycéliens vont explorer le sol et venir au contact des racines pour former un organe mixte qu'on appelle la mycorhize ou les mycorhizes. Donc les radicelles de l'arbre, ici il s'agit de radicelles de l'arbre, qui sont tuméfiées, entourées d'un manchon de mycélium. Et c'est l'interface plante-champignon ou arbre-champignon. Cette interface, c'est l'interface nutritionnelle entre l'arbre et son champignon. Le champignon étant beaucoup plus puissant que l'arbre pour aller chercher les éléments minéraux du sol, l'eau en période de sécheresse, car s'il n'y avait pas les champignons, on n'aurait plus de forêt sur Terre. C'est clair, hein, c'est-à-dire que les à-coups de sécheresse seraient mortels pour tous les arbres et tous les végétaux. Il faut savoir que 99% des végétaux de la planète sont mycorhizés, sont ensemencés naturellement avec des champignons. Quand vous mangez une salade de carottes râpées ou de navets ou tout ce que vous voulez, vous mangez une salade de champignons. Car ce n'est pas les mêmes champignons que vous ramassez dans le sous-bois, hein, ce n'est pas des champignons macroscopiques que vous voyez à l'œil nu, mais ce sont des champignons microscopiques qui vont former des mycorhizes également, à l'intérieur des cellules du végétal. Toutes les plantes de la planète sont mycorhizées. Il y a très peu de plantes dont on n'a pas trouvé de champignons à l'intérieur des cellules végétales. Donc pensez que quand vous mangez des légumes, vous mangez une salade de champignons en fait, sans le savoir, bien sûr. Mais le poireau, les oignons, toutes ces plantes sont mycorhizées, sont ensemencées avec des champignons naturellement. Et à tel point, c'est que c'est utilisé aujourd'hui. On ensemence, avant de planter des poireaux ou des oignons, on ensemence le sol avec des champignons mycorhiziens pour que la plante pousse beaucoup plus vite et beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, plus performant que les engrais. Et c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus durable au niveau du développement. Alors dans la nature, ça se passe, c'est dans la diversité. Donc on va aller sur le terrain, on va essayer de regarder si on trouve quelques espèces quand même. Alors à cette époque, bien sûr, on n'a pas une grande diversité de champignons. J'aurais bien voulu faire ça à l'automne, parce qu'à l'automne, bien sûr, surtout ici dans les Hautes-Alpes, on a une très grande biodiversité fongique. À cette époque, c'est vrai qu'on a surtout quelques groupes taxonomiques de champignons, comme les ascomycètes, les ascomycètes donc proches de la morille, les morilles entre autres. On peut avoir quelques tricholomes, quelques entholomes, des pésis, donc surtout des ascos, ascomycètes. Vous avez deux grands groupes dans les champignons supérieurs, ce qu'on appelle les ascomycètes et les basidiomycètes. Donc les basidiomycètes, c'est ceux que vous connaissez le mieux, je pense. C'est les champignons à chapeau, avec des lames ou des tubes, comme les bolets, qui ont des spores exogènes, c'est-à-dire que les spores sont soumis à l'air libre, alors que dans les ascomycètes, comme les truffes, comme les morilles, les spores sont contenus dans des sacs, qu'on appelle des asques, donc elles sont endogènes. Donc il faut que l'asque s'ouvre pour libérer des spores. Voilà. Et donc le nez s'éduque. Et c'est un outil indispensable. Si vous n'avez pas d'odorat, ce n'est pas la peine de faire de la mycologie. C'est-à-dire, mais je ne veux pas vous décourager parce que l'odorat, ça s'éduque. Et c'est un des sens qu'on a le moins développé chez l'homme, mais ça s'éduque très très bien, très très bien. Je connais d'ailleurs des récolteurs de truffes qui se passent du chien, ils prennent une poignée de terre, ils sentent et ils sont capables de dire s'il y a de la truffe dans cet endroit-là ou pas. Là, un champignon, intéressant. Ça, c'est un champignon de printemps qui pousse spécifiquement au printemps, qui appartient au genre Entholoma. Pourquoi Entholoma? Bon, je le sais un peu par expérience. C'est que si vous récoltez les spores, c'est donc la même démarche, vous commencez par ça. Bon, là, on peut avoir une petite idée, parce qu'il y a des reflets roses un peu dans les lames. Donc, on peut ruser. Parce que la sporie, bien sûr, il faut quelques heures pour l'obtenir. Mais ici, par expérience, je sais que c'est un champignon à spores rose, un rhodosporie. Et donc, si vous pourrez vérifier, si vous voulez l'emporter. Il s'agit d'un entholome. Alors, les entholomes, c'est un monde effrayant. Il y a 600, 700 espèces au moins en France. Il y a quelques entholomes au printemps. Il n'y en a pas énormément d'espèces. Il y a parfois des odeurs aussi. Alors, pour sentir le champignon, il faut froisser les lames. C'est toujours dessous le champignon qu'on sent. Froisser les lames pour bien exacerber, abîmer un peu les cellules, de façon que les effluves ressortent. Et donc, là, soit on a des odeurs de farine, soit des odeurs d'eau de javel. Là, on a une odeur fongique. Une odeur fongique, vous pouvez faire circuler, si vous voulez, tout à fait classique. Donc, on élimine certaines espèces parce qu'il y a des odeurs de rance, d'huile de lin rance dans ce groupe-là, par exemple. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est Entholoma vernum. Entholoma vernum ou un entholome de printemps. Bon, c'est déjà une belle trouvaille. Bravo à celui qui l'a trouvé ou celle qui l'a trouvé, je ne sais plus. Voilà. Donc, il n'est pas en très bonne forme parce qu'il a séché. Alors ça, c'est des lichens. C'est des lichens, c'est pas des champignons. C'est un autre groupe. Alors, le monde fongique, alors c'est un règne, ça je ne vous ai pas dit encore. Le règne fongique a été revu grâce à la biologie moléculaire. Donc maintenant, on a une bonne délimitation du règne fongique. On sait que... Alors, on estime aujourd'hui à presque 5 millions d'espèces. On n'en est pas à 5 millions, on en est à plus d'un 1 ou 2 millions. Mais les courbes de découverte, etc., sur toute l'ensemble de la planète, bien sûr, on estime aujourd'hui d'une façon raisonnable, au niveau statistique, etc., qu'on sera à plus de 5 millions d'espèces. Donc ça justifie d'ailleurs le règne fongique qui était, vous savez que les champignons étaient classés avec les plantes autrefois, et donc c'est tellement différent des plantes, les champignons sont plus proches du monde animal que du règne végétal. Ça c'est une notion très importante, ne serait-ce que au niveau de la paroi fongique, qui contiennent de la chitine, donc comme les insectes, donc les champignons sont beaucoup plus proches des animaux que des végétaux. Donc c'était la grande révolution des 20 dernières années, c'était que le règne fongique a acquis ses lettres de noblesse, c'était vraiment un règne à part, séparé des végétaux, séparé des animaux, et à l'intérieur des champignons du règne fongique, on a enlevé les myxomycètes, ces champignons qui étaient capables de mobilité, on a enlevé les oomycètes, c'est-à-dire le milieu de la vigne, n'est plus un champignon. C'est classé plus proche des algues, etc. Donc, dans les vrais champignons, il y a les zygomycètes, les gloméromycètes, les basidiomycètes et les ascomycètes. Donc, grâce à la biologie moléculaire, on a bien serré le monde fongique. Bon, on fait encore des nouvelles découvertes parce que il y a tout un ordre qui vient d'être découvert. J'ai su ça par un papier international là, qui vient d'être publié. On a découvert tout au bas de l'arbre phylogénétique des champignons. On a découvert tout un groupe qu'on ignorait, et un groupe immense de champignons, mais des champignons marins. Voilà. Donc pour vous dire, on a du travail pour les jeunes qui veulent venir dans la mycologie, dans la recherche. Surtout, venez, parce qu'il y a énormément dans les carrières scientifiques, il y a de la place. Alors effectivement, ce n'est pas des carrières qui sont très rémunérées, mais bon. Alors, pour bien récolter un champignon dans un but de consommation, il faut récolter l'intégralité du champignon, jamais le pied coupé. Donc se munir quand même d'un couteau pour bien déterrer le champignon jusqu'à sa base, vérifier certains caractères, la présence ou l'absence de certains caractères qui vont vous permettre de faire un bon diagnostic de l'espèce avant de consommer. Car bien sûr, il faut savoir quelle espèce précisément, quelle vous avez à faire pour pouvoir consommer. Et donc, arracher l'intégralité du champignon, c'est donc vérifier certains caractères là, qui sont localisés à la base du pied, présence par exemple d'une volve chez les amanites. Alors là, attention, prudence, il y a une volve. Donc, si vous coupez le pied, bien sûr, la volve va rester dans le sol et vous allez passer à côté du caractère essentiel de reconnaissance. Il y a certains bolets, par exemple, à titre autre exemple, il y a le bolet poivré, par exemple, Calciporus piperatus. C'est un bolet qui n'est pas mortel, mais qui est immangeable. Et si vous le confondez, vous risquez de rendre si vous le mélangez avec une cuisine, avec d'autres champignons comestibles, vous risquez de rendre la cuisine complètement impropre. Parce que ce bolet, pour le reconnaître, il a la présence d'un mycélium jaune localisé à la base du pied. Et si vous coupez le pied du champignon, ce mycélium jaune, la partie végétative du champignon, vous allez passer à côté. D'autant plus que, alors, pourquoi vous pouvez arracher complètement le champignon, c'est que le champignon, la partie que vous cueillez dans le bois, c'est l'appareil fructifère, c'est le fruit du champignon. La partie importante, c'est le mycélium qui est dans le sol, qui est relié aux racines des arbres.
La partie importante pour la reproduction.
Pour la reproduction, voilà. Et pour la vie du champignon et la vie de l'arbre aussi, parce qu'il s'agit d'une symbiose. C'est-à-dire qu'on ne condamne pas l'espèce en arrachant le champignon. Par contre, il est sage de laisser des vieux champignons, de ne pas récolter tout, de laisser des vieux champignons qui vont sporuler, redonner les graines, entre guillemets, qui sont les spores du champignon, qui vont pouvoir être disséminées et se propager dans l'environnement. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night.
Blackbird, c'est un titre extrait de l'album blanc des Beatles. On retourne en forêt dans le cadre de cette manifestation intitulée « Biodiversité à tous les étages » qui était co-organisée par la ville d'Embrun et le Parc national des Écrins le 22 mai dernier dans le cadre de la fête de la nature. Après les champignons, intéressons-nous aux insectes. Pierre Frappa était là, il est entomologiste, il fait partie de l'association Proserpine. Voici quelques-unes de ses explications sur le vaste monde des insectes.
Il y a plus d'insectes, en fait, que de tout le reste de la faune et de la flore réunie. Déjà, quand on le dit comme ça, ça donne un peu une idée, quoi. Si bien que on ne peut pas connaître tous les... On peut pas dire « je suis un spécialiste des insectes ». Ça n'existe pas, un spécialiste des insectes. Hein, parce que voilà, y a trop d'espèces, on ne peut pas tout savoir. Même, moi, je dis que je travaille surtout sur les coléoptères, et les hétéroptères. Les hétéroptères, c'est ce qu'on appelle les punaises. Hein, ce sont les deux groupes sur lesquels je travaille un peu plus, mais je suis très loin de dire que je connais les coléoptères et les punaises, parce que sur les punaises, c'est encore un peu possible, sur les coléoptères, ça ne l'est pas, quoi. Clairement. Sachant deux choses, d'une part, liées au nombre d'espèces, à la taille de beaucoup d'espèces qui sont de très petites. Ces groupes, donc, quand... un adulte a atteint ce stade adulte, quand un insecte a atteint ce stade adulte, il ne grandit plus. Hein? Et donc, alors l'exemple qui est toujours posé, c'est les coccinelles. Hein? Une coccinelle, on ne mesure pas l'âge de la coccinelle au nombre de points. Hein? Y a des gens encore qui le pensent, mais ce n'est pas le cas. Une coccinelle, quand elle a la forme d'une coccinelle, elle est adulte, elle ne grandit plus et le nombre de points ne bouge pas. Hein, c'est une voilà. Alors si vous voyez là une larve de coccinelle, bon ça arrive qu'on en trouve. Quand on vous dit c'est ça, c'est une larve de coccinelle, je dis ah bon, ça ne ressemble, ça n'a rien de commun avec une coccinelle. Hein, voilà. Donc ça c'est ce que je voulais dire un peu en intro. Après alors on peut essayer de trouver quelques bestioles. Alors quelques mots sur les méthodes de prospection quand même avant. On a une multitude de techniques, je dirais, pour essayer d'aller débusquer les insectes dans leur milieu, dans leur repère, quoi. Hein. Alors, les plus courants, bon, tout le monde connaît le fil à papillon, quoi. Hein. Par exemple, il y a différents modèles, hein, plus grands, plus longs, plus machin, etc. La caractéristique du fil à papillon, c'est que c'est une poche assez profonde et transparente, enfin, à travers laquelle on peut voir. Parce que l'idée, c'est d'attraper des bêtes, souvent... en vol, qui des bêtes qui sont souvent agiles. On n'attrape pas que les papillons avec les fils à papillons. Hein. On va attraper aussi certains coléoptères, mais aussi des hyménoptères, c'est-à-dire les guêpes, les abeilles, des mouches, etc. Donc l'intérêt, c'est de les attraper en vol et ensuite de voir ce qu'on a dedans, de pouvoir voir à travers ce qu'on a dedans. D'une part, parce qu'il y a des choses qu'on peut identifier simplement comme ça à vue, certains papillons, mais aussi parce que si vous attrapez des guêpes, par exemple, avec ça, ça vous permet de récupérer la bestiole après sans vous faire piquer. Hein, parce que vous introduisez un bocal, un pot dedans et vous voyez ce que vous faites. Donc c'est le premier outil le plus connu. Après, il y a d'autres outils qu'on appelle de chasse à vue, hein, ou de chasse active. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le filet fauchoir. L'idée, c'est d'attraper des bêtes qui sont dans la strate herbacée, hein, qu'on ne voit pas forcément, qui sont assez nombreuses, mais qu'on ne voit pas, donc on les attrape par surprise, je dirais, en quelque sorte. Il y a le troisième outil qu'on appelle la nappe de battage, ou le parapluie japonais, ou là aussi. Alors là, il y a des modèles différents. Il y a une toile qui est tendue par un dispositif quelconque. Donc on met ça sous les branches, et on tape sur les branches. Donc il y a tout un tas de bestioles qui sont sur les branches, qui tombent sur la nappe. Alors pour certaines, il faut aller vite, parce qu'elles s'envolent. Hein, voilà, donc ce qui permet aussi de les capturer. Donc ça, c'est des méthodes de chasse active. On a ensuite beaucoup de systèmes de piégeage. Alors soit de piégeage dans le sol, au sol, on va mettre des dispositifs, des gommes, des bocals ou un gobelet comme ça enterré au sol, et on va, avec un système attractif ou pas, selon ce qu'on veut attraper. Par exemple, si on veut attraper des coprophages, donc des bestioles qui vont chercher des excréments, on va pâter avec des trucs bon, pas forcément très ragoûtants. Hein, on peut même capturer des nécrophages, donc qui se nourrissent de cadavres en mettant une souris crevée ou un truc comme ça. Hein. Voilà, ça permet de capturer, quelquefois de cibler hein, les bestioles qu'on veut attraper. Voilà, ça c'est pour donner deux exemples. On a aussi des systèmes d'émergence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'insectes, pas la totalité, il y en a qui sont plus ou moins polyphages, mais il y a beaucoup d'insectes qui se nourrissent exclusivement sur une espèce ou sur un groupe d'espèces. Donc on ne va pas les trouver ailleurs, quoi, hein. Alors c'est particulièrement vrai, par exemple, sur les arbres, c'est lié à la physiologie de l'animal. Hein, c'est vrai, par exemple, l'exemple le plus évident, parce que là il y a un clivage assez fort, c'est sur les arbres, où vous n'avez pas du tout la même faune sur les résineux et sur les arbres feuillus. Ça s'explique d'une façon relativement simple, c'est que les résineux, par définition, produisent de la résine, hein, donc des terpènes, donc des produits qui finalement sont potentiellement toxiques, et que donc pour digérer ces terpènes-là, il faut un équipement enzymatique particulier. Et que seuls les insectes qui ont développé ce système-là peuvent se nourrir du bois et des feuilles, etc., des résineux. Après, vous avez il y a des spécifications plus fines, hein, je dirais. C'est-à-dire que vous avez des espèces qu'on va trouver sur les chênes, d'autres sur les peupliers, d'autres sur les sorbiers, puisqu'on a vu un sorbier tout à l'heure, hein, etc. Donc, et vous avez sur les peupliers, sur les saules, par exemple, ce n'est pas forcément les mêmes. Sur les aulnes, par exemple, au bord des rivières, vous avez une petite chrysomèle bleue, là, vous avez peut-être déjà vu, qui est spécifique à l'aulne, hein, qui s'appelle Agelastica alni, parce qu'on n'en a trouvé que sur l'aulne. Et voilà. Donc, et ça, c'est lié à une adéquation, alors qui s'est constituée à travers l'évolution, hein, mais au cours de l'évolution, il y a eu une coévolution, en fait, entre ces espèces d'insectes et ces espèces végétales qui ont fait que finalement il y a eu une forme de symbiose, hein, de vie ensemble, qui fait que voilà, les deux sont devenus indissociables. Je me rends compte que j'ai beaucoup parlé des insectes et des plantes, alors qu'il y a beaucoup d'insectes qui sont aussi des prédateurs. Hein, alors bon, tout le monde connaît la menthe religieuse, hein, qui est un prédateur connu, mais il y a énormément dans à peu près tous les groupes. Il y a des espèces qui sont des prédateurs d'autres insectes. Les papillons, bon, il n'y a pas de prédateurs. Hein, je ne crois pas qu'il y ait d'espèces prédatrices. Mais par contre, chez les coléoptères, il y en a énormément. Tous les carabes, par exemple, hein, presque tous, pas tout à fait, mais presque tous sont des prédateurs. Y compris chez les punaises, par exemple, vous avez des groupes entiers qui sont aussi des espèces prédatrices. C'est-à-dire qu'elles ont un rostre dans lequel elles vont planter dans la substance dont elles vont se nourrir. Hein, soit dans le végétal dont elles vont pomper la sève, soit dans le corps de leur proie pour celles qui sont prédatrices. Au cours de l'évolution, elles ont différencié, je dirais, à partir du même schéma général, hein, se sont différenciés des systèmes particuliers. Vous avez certaines punaises prédatrices, comme certaines réduves, qui ont un rostre impressionnant, qui sont d'ailleurs qu'il est fortement déconseillé de prendre la main. Parce qu'elle s'en sert pour se nourrir, mais elle s'en sert aussi pour se défendre.
Après Pierre Frappa et ses insectes, nous rencontrons désormais Marie Lanteguy. Marie Lanteguy est une ancienne garde-monitrice du parc du Mercantour. Et elle s'est intéressée tout particulièrement aux escargots.
L'escargot, on en trouve dans tous les milieux. Alors, il y a de l'escargot terrestre, de l'escargot aquatique. Moi, j'ai plus fait de l'escargot terrestre, vu que j'ai fait ça plus en altitude qu'en bas. Bien que dans les lacs d'altitude, il y a aussi des choses certainement très intéressantes à faire. Et en fait, on peut trouver des escargots d'un bord de rivière jusqu'à une barre rocheuse. Un jour, on peut, en grimpant, rencontrer un escargot en falaise. c'est pas incompatible. Alors qu'on imagine l'escargot qui a besoin d'une pluie pour sortir. Mais il y a toutes sortes d'escargots qui n'en ont pas besoin. Alors au niveau de la spécificité de l'escargot, c'est un mollusque. Alors qui, lui, n'a pas de squelette interne, pas de squelette externe. Pour l'escargot, une coquille. Pour tout ce qui est limace, une micro-coquille, voire pas de coquille du tout. Donc ça, c'est la coquille étant un phénomène de protection supplémentaire qui lui permet de plusieurs choses, c'est-à-dire de se protéger d'un prédateur, enfin, parce que la coquille est plus dure, de se protéger de l'évaporation, parce qu'en fait, l'escargot, nous, si on est 70% d'eau, l'escargot, c'est 90%, voire plus. Donc, c'est vraiment une poche à eau. Et son fonctionnement est lié à la présence de cette eau. Par exemple, lui, ses muscles ne s'attachent pas à un squelette externe ou interne. En fait, ses muscles fonctionnent avec... C'est hydraulique. En fait, une dilatation de l'eau à l'intérieur du corps ou d'une suppression. Et c'est ce qui le fait, par exemple, avancer. Sa forme de nourrissage aussi, sa progression de sa nourriture correspond à ça aussi. C'est-à-dire que c'est un peu magique. c'est difficile à concevoir, mais bon, voilà, ça fonctionne un peu comme... ouais, c'est, pour moi, c'est de l'hydraulique, quoi. Enfin, une question de pression, de progression. Un piston virtuel à l'intérieur. Et donc on en était à la nourriture. L'escargot, souvent on pense que c'est un herbivore, hein, comme notre escargot de Bourgogne qui est le représentant pour nous Français de l'escargot, ou comme l'escargot des jardins, mais il y a aussi des escargots qui sont carnivores. Alors il y en a qui le sont complètement, puis il y en a qui le sont en fonction de la période... de leur stade d'évolution, leur maturation, savoir s'ils sont jeunes ou adultes. Un peu comme par exemple une perdrix, quand elle est poussin, elle a besoin aussi des fourmis, et puis plus tard, elle a plus besoin de fourmis, et elle sera uniquement granivore. Mais voilà, pour l'escargot, on a aussi ce genre d'espèces. On va quand même parler que sur les escargots, il y a quand même beaucoup d'espèces protégées. Et il y a notamment une réglementation en France qui fait qu'on ne doit pas ramasser les escargots au printemps jusqu'à la fin juin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ramasser des escargots avant début juillet et à une certaine taille pour certaines espèces. Et encore, j'ai remarqué qu'en montagne, il y a des escargots qui pouvaient encore pondre après le 14 juillet. Donc, c'est même pas assez suffisant de cette réglementation-là. Donc, si vous allez aux escargots, faites attention. C'est très peu encadré, cette réglementation. Mais malheureusement, parce que dans beaucoup de régions, l'escargot est en voie de disparition, enfin, notamment l'escargot qui est ramassé pour l'alimentation, et c'est dommage, quoi, parce que pour pas grand chose, l'escargot, il est pas là qu'au printemps. Alors c'est sûr qu'il est plus facile, à voir quand l'herbe elle est pas grande, mais il est là toute l'année jusqu'à ce qu'il s'enterre pour passer l'hiver, quoi, parce que l'escargot se met en position hivernante, il met souvent une petite porte de calcaire. Qui ferme son opercule, qui lui fait une sorte d'isolation. Enfin, il a plusieurs formes d'isolation, l'escargot. Il a une forme d'isolation au niveau de sa masse d'eau à l'intérieur. Il a une forme d'isolation, c'est le manteau. C'est révélateur, hein. C'est une sorte de tissu qui fait tout le tour de la coquille et dans lequel il peut s'enfermer. Et puis, il y a cette isolation encore de coquilles qui peut être complètement fermée et éviter les déperditions de chaleur, les déperditions, bien que l'escargot soit un animal à sang froid, mais à partir du moment où il s'enterre à une période favorable, il s'enterre à une profondeur suffisante pour que le gel ne l'atteigne pas, et donc il peut comme ça passer d'une année sur l'autre. Parce que donc l'escargot a la possibilité, lui, de changer de taille d'une année sur l'autre, ça vit plusieurs années, hein, et c'est ce qui fait que on a des alors il y a des petits escargots qui restent petits relativement, mais même ces petits escargots, une fois qu'ils sortent de leur œuf, ils vont grandir, hein, il y a tout un système de batterie d'accroissement. Ils mettent des tours supplémentaires à leurs coquilles, que ce soit des escargots qui soient en hauteur ou des escargots qui soient à plat ou des escargots qui soient globuleux, c'est-à-dire de forme plus ronde.
Merci à Jacques Guimbertot, à Pierre Frappa et à Marie Lantegui qui se sont prêtés au jeu du micro de la rame dans le cadre de la fête biodiversité à tous les étages le 22 mai dernier. Il y aurait bien sûr encore beaucoup à dire, mais peut-être serez-vous au rendez-vous de la prochaine fête de la nature dans un an.